Bienvenue à tous, vous êtes dans le collimateur de l'actualité. Kerwin Maïzo, Vianney Misumbi, Magloire Mpembi. À retrouver sur sudglobalradio.net, sur la chaîne YouTube Kerwin Maïzo et sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner. Nous avons un invité ce soir, il s'appelle Ibrahima Sidibé Boumier. Dans un premier temps, nous parlerons de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever. Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2022 et le Sénégal l'a emporté. Ensuite, nous évoquerons la tentative de coup d'État au Congo-Kinshasa. Et enfin, nous parlerons de cette succession de coups d'État qui ont eu lieu au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité. Kerwin Maïzo, bonsoir. Ibrahima Sidibé Pommier, bonsoir.
Bonsoir, Magloire. Bonsoir, Ibrahima Sidibé.
C'est la deuxième édition du collimateur de l'actualité et aujourd'hui nous avons un invité en plus, il s'appelle Ibrahima Sidibé Pommier. Ibrahima Sidibé Pommier est politologue, il est spécialiste des questions géopolitiques touchant le Sahel, le Mali en particulier. Il a un travail énorme sur le conflit malien et il est résident au Canada, à Québec. Et il collabore à la chaîne d'actualité Diaspo Interaction. Ibrahima Sidibé Pommier, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être dans le collimateur de l'actualité.
Merci à toi de m'avoir invité. Merci à Kerwin Maïzo. Ah, et ça fait plaisir de discuter avec vous de l'actualité du continent comme d'habitude.
Alors ce soir, on va alterner un peu. Il y a un sujet, on va dire, léger. C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui se termine. Et puis après, on va parler des choses un peu plus graves ou un peu plus tristes selon le point de vue. Le Sénégal l'a finalement emporté. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Je pose la question à tous les deux. Peut-être que Ibrahima va commencer par parler. Le football, c'est un jeu, c'est vrai, mais c'est aussi devenu une question géopolitique. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Ibrahima?
Mais j'ai trouvé un match extrêmement disputé. Il y a eu donc du suspense. Donc, une équipe du Sénégal, effectivement, qui était favorite, donc qui a essayé jusqu'au bout de pousser, mais qui avait du mal à marquer. Comme il y a eu donc une première occasion avec ce penalty à la 6e minute de Sadio Mané. Ensuite, effectivement, bon, les Égyptiens ont montré quand même à chaque moment qu'ils pouvaient être dangereux. Et on est arrivé donc quand même aux prolongations jusqu'au tir au but. Donc c'est ça, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Je pense globalement que ça a été vraiment une CAN réussie du Cameroun. Hein. On se rappelle quand même qu'au début, cette CAN était presque, elle a failli être avortée parce que la CAF trouvait pour des raisons de Covid qu'il fallait annuler. Enfin, il a fallu l'intransigeance de Paul Biya et de son épouse hein, pour que ça soit maintenu. Donc je pense que c'est ça, une victoire un peu quand même du peuple camerounais, même s'ils auraient voulu que leur équipe soit en finale, mais ils sortent quand même troisième. Il y a eu beaucoup de suspense. On a vu aussi des pays qui n'étaient pas habitués à ces compétitions, la Gambie, les Comores briller, la Guinée équatoriale. Voilà, mais moi je trouve quand même bravo le Sénégal, le mériter. Et c'est sûr qu'à Dakar ce soir, ça ne va pas beaucoup dormir.
Kerwin Maïzo, un des premiers constats qu'on a fait au cours de cette Coupe d'Afrique, c'est que à un moment, on était tous en train de le dire, il n'y a plus de petites équipes. Les grandes nations du football du continent pouvaient trembler sur leur base. Et finalement, quelque part, la victoire du Sénégal symbolise le fait que il n'y a plus de petites équipes. C'est vrai que le Sénégal n'était pas à dire une petite équipe de football parce que le Sénégal avait une tradition, mais le Sénégal n'avait jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations, même si pour le Sénégal, on va tous se rappeler en 2002 cette victoire contre l'équipe de France lors de la Coupe du Monde Corée-Japon. C'était pas une petite équipe comme telle, même si elle n'avait jamais remporté, mais là, le Sénégal a enfin son premier trophée. Kerwin Maïzo.
Moi, je dirais que c'est Bon, on ne va pas parler d'injustice, hein, parce que j'allais dire que c'est une injustice qui a été comblée, mais moi, je ne parlerai vraiment pas d'injustice. Je dirais que ça devrait se faire, ça devrait vraiment se faire. Le Sénégal en Afrique, c'est une grande nation, hein, sur tous les plans. Sur le plan développement économique, influence culturelle, influence politique, la diplomatie sénégalaise est une diplomatie très engagée. C'est un pays qui a des écrivains, il y a des grands noms du Sénégal dans tous les domaines. Et c'est ce grand pays africain, le seul, à ne pas avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, ça devrait être fait. Il fallait vraiment que le Cameroun soulève la coupe. Et puis je me disais...
Le Sénégal.
Le Sénégal. Et je me disais que l'Égypte a eu la coupe au moins 8 fois. Même si c'est le fruit d'un travail, c'est une grande nation, mais au moins 8 fois. Alors l'avoir là, cette fois-ci, au détriment du Sénégal, ça aurait été vraiment injuste. Exactement. Donc, ce soir, je suis sénégalais. Et je me réjouis avec eux, j'applaudis de demain. Après, s'il y a un constat à faire, c'est que le Sénégal a remporté la coupe avec un entraîneur entre guillemets national, hein, Aliou Cissé. Et on connaît un peu le cas de Florent Ibenge en République démocratique du Congo. Il y a un phénomène, hein, qu'on a constaté de plus en plus lors des Coupes d'Afrique des Nations, c'est que les entraîneurs nationaux font un excellent travail. On n'a plus besoin d'aller chercher des expatriés qu'on paye extrêmement cher pour un travail, je vais dire, moyen. Là, il y a une génération d'entraîneurs nationaux qui fait un très bon travail, et Aliou Cissé fait partie de ces grands entraîneurs qui méritent nos applaudissements, même si il vient de la diaspora sénégalaise de France. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec les Camerounais. Bon, ça, c'est la première des choses que je devais souligner. Bon, la deuxième des choses que je souligne, c'était lors de cette CAN, c'est la première CAN où on a vu une femme arbitrer, au même titre que les hommes. Je n'ai pas son nom exactement, c'est une Rwandaise.
Oui.
Ça aussi, ça mérite d'être souligné. Et puis, une des grandes nations du football, la République démocratique du Congo, y a participé en sa manière parce que la finale, je ne sais pas si ça avait changé après, la finale a été arbitrée par un Congolais.
Non, il était dans le staff, mais il était le 4e arbitre. C'était l'arbitre... Okay.
Parce que c'était un Sud-Africain.
Ouais. Ah ben, c'était un Sud-Africain. Bon, quand même, il y a eu un Congolais, M. Ndala, Bon, là, c'est mon côté congolais un peu qui a parlé. Voilà. Parce qu'il fallait citer les noms de la République démocratique du Congo quelque part. Bon, donc, ce fait, le Sénégal a rejoint le club. Le Cameroun a plus ou moins bien organisé cette coupe. Mais bon, on connaît tous les couacs qu'il y a eu. Ça a été reporté parce qu'il y a eu beaucoup de corruption, beaucoup de détournements côté travaux. Bon, il y a eu la pandémie à la COVID-19 qui a un peu qui a constitué une espèce de cheveu dans la soupe. Et on a vu la qualité des infrastructures. Bon, bien que cette malédiction en Afrique où les stades ne sont jamais remplis, c'est toujours lorsque l'équipe du pays hôte joue qu'on voit du public, les stades sont toujours vides. Il y a moyen de trouver une solution pour remédier à cela. Bon, la solution que le Cameroun a trouvée, c'était d'offrir beaucoup de billets lorsque les Cameroun jouaient. Bon, c'était pas une bonne solution, mais bon, ils l'ont fait. Mais à quoi ça sert d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations si on doit donner des billets gratuitement par les entreprises? Bon, il y avait tout un débat au Cameroun, hein, même des députés qui sont riches, ils préféraient aller prendre des billets gratuitement pour aller au stade. Bon, ça, c'est quand même assez déplorable. Et la dernière chose que nous déplorons, c'est les droits de diffusion. La façon dont ça a été géré, nous autres, on avait comme l'impression qu'on nous a privés de notre coupe. Ici, en France, pour regarder la Coupe d'Afrique des Nations, il fallait prendre un abonnement sur une des chaînes françaises qui diffusait les matchs. C'est pas quelque chose de démocratique. C'est même en Afrique, c'était très compliqué, Mais en tout cas, il faut qu'on trouve une solution africaine à cette histoire de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai comme l'impression que sur le plan médiatique, on nous vole chaque année notre Coupe. Hein, les forces de l'argent sont tellement derrière que, voilà, les Africains, c'est notre Coupe à nous, mais nous devons passer par des grands groupes de médias occidentaux pour... occidentaux, pour regarder notre propre coupe. Ça enlevait, surtout ici en Occident, les côtés un peu populaires de l'événement. Donc du coup, ce sont les barman qui ont raflé la mise, parce que pour pouvoir regarder un match, certains bars dans certains quartiers de Paris, banlieue, Marseille, où il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de bars ont pris ces fameux abonnements pour permettre aux gens de venir regarder les matchs. Bon, là, c'était à la fois convivial, mais bon, vous savez, les côtés africains. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il y a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Bon, ici à Paris, je me posais la question si la communauté camerounaise et ivoirienne n'en arriverait pas au bras, parce qu'il y a des drapeaux qui ont été brûlés. Ça discutait, c'était devenu tellement passionné et passionnel qu'il y avait un côté intéressant, mais des fois un peu inquiétant, parce que la frontière entre les côtés intéressants et les côtés inquiétants est tellement non étanche qu'on pouvait assister à toutes sortes de dérapages. Bon, nous autres, comme on nous a dit de nous taire, on n'est même pas dans l'événement. Bon, les Cameroun affichent plusieurs étoiles sur ces maillots. Bon, allez, adieu Cameroun, vive la Côte d'Ivoire 2023, et les Ivoiriens vont nous montrer leur capacité d'organisation.
En tout cas, on va il y a de quoi que dans l'organisation, c'est vrai. Peut-être qu'on aura une autre occasion. Il y a eu des morts, oui, malheureusement.
C'est ça qui allait souligner. C'est ce qui a eu quand même 6 morts dans une bousculade. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester, même si effectivement le pouvoir camerounais a tardé déjà pour manifester sa solidarité pour ces victimes-là. Bon, je sais que pendant la finale, il y a eu une minute de silence, mais ça, c'est quelque chose qui était resté. Moi, je note aussi, peut-être aussi, une espèce d'instrumentalisation de se relégitimer pour le pouvoir de Paul Biya. On a vu avec la coupe, donc l'entraîneur du Sénégal était obligé de monter les gradins pour aller carrément rejoindre Paul Biya dans la tribune présidentielle pour que Paul Biya remette la coupe. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un tout petit peu pas très fair play. Il aurait dû descendre, lui, s'il voulait le remettre, la coupe. Et puis, donc ça, c'est le côté un peu politique.
Il y a toujours une dimension politique au sport, même si ça reste une fête. Et ce ne sera pas la première fois. Déjà en 1936 à Berlin, il y avait des Jeux Olympiques, mais il y avait une dimension politique énorme et qui est restée dans l'histoire. Mais moi, je voudrais revenir sur le match, parce que voilà, malgré le couac, malgré il y a eu des morts, vraiment paix à leurs âmes.
Les matchs délocalisés de Douala vers Yaoundé, ouais. Parce que le stade japonais avait des problèmes de pelouse.
Oui, toute ma sympathie aux familles qui ont perdu les leurs. Mais je voudrais revenir au match pour renchérir sur ce que Kerwin, comme on avait dit tout à l'heure, sur Aliou Cissé, qui a fait un travail énorme. Quand on voit cette équipe du Sénégal, quand on la voit jouer, même pour cette finale, elle était présentée en favori et elle a joué ce rôle. L'équipe d'Égypte se savait être en dessous du niveau sénégalais et donc a fait un peu l'attentiste. Et déjà, il y avait eu cette faute en début de match à la deuxième minute, le temps de jouer le penalty que Sadio Mané a raté. Sadio Mané rate ce penalty et ça devait être un coup sur la tête des Sénégalais, mais ils ont continué à jouer. Et on va voir à quel point ce Sadio Mané est important dans cette équipe et à quel point on lui faisait confiance. Parce que lors de la séance des tirs au but, la séance finale, c'est à Sadio Mané qu'a incombé la tâche de tirer le penalty qui était susceptible de donner la victoire au Sénégal. Et il a marqué, c'était la victoire. Et voir ce jeune homme qui est un joueur extraordinaire, qui est très bon, qui a raté le penalty en début de match,
terminer le match en marquant son penalty, ça a quand même été un moment fabuleux. Je pense que c'est un moment qui restera dans l'histoire. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti à ce moment-là en regardant ce match.
C'est tout à fait, moi je suis d'accord avec toi. C'est sûr que Sadio Mané, par rapport à la dimension du personnage, c'est un joueur impliqué dans sa communauté qui aide son village. Il a construit des centres de santé pour les femmes. Enfin, donc il y a quelqu'un qui est d'une humanité et d'une générosité incroyable. Et je pense que voir mener cette équipe à cette victoire n'est vraiment que justice, un peu reconnaissance pour l'œuvre gigantesque qu'il fait dans l'anonymat, sans faire beaucoup de tintamarre. C'est quelqu'un qui a ce côté-là, et moi je trouve ça salvateur, et je trouve que c'est à saluer. Et puis effectivement, comme Kervin l'a dit pour le Sénégal, c'est sûr qu'on a un pays qui a une stabilité, qui est un pays qui est une espèce de vitrine, pas seulement dans le domaine politique, mais c'est vrai qu'il manquait cette dimension d'une grande compétition. Ça fait deux fois quand même que le Sénégal est en finale, donc là, cette victoire est vraiment totalement méritée, et moi je dis chapeau et bravo aux jeunes du Sénégal, et puis si ça peut rayonner un peu sur les autres, pourquoi pas, et ce sera surtout ça. On a vu vraiment une belle fête du football africain, et ça fait du bien dans ce monde compliqué où on va en parler des coups d'État, des régimes qui sont quelquefois grippés par de la malgouvernance et tout le reste.
Et si je peux ajouter juste une phrase, rendre hommage à Sadio Mané par rapport à son humanité. Moi, j'ai retenu de lui, il a dit que la richesse, ça se partage, ça se montre pas. Donc, il n'est pas intéressé ni par des jets privés, ni par des Ferrari. Il n'a pas un téléphone portable bling-bling. Il dit la richesse, on la partage. Il sait d'où il vient, il connaît ses origines. Il n'est pas là pour se montrer. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé. Bon, après, il faut aussi signaler qu'avec cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu beaucoup de matchs nuls, sans but. Et puis, bon, l'Égypte partait déjà avec un léger handicap parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs par prolongation. Donc, trois prolongations, ça fait un match entier dans les jambes. Le Sénégal était reposé d'un match. Donc, du coup, il partait avec un léger avantage physique. Ça a payé à la fin. Bon, c'est le travail, hein, avec ces légers avantages. C'est le travail qui a payé. Bravo aux Sénégalais. Le football, c'est pour rapprocher les nations, hein, pour consolider l'amitié entre le peuple. J'espère que ce soir, en Afrique, on sera encore un peu plus soudés et nous serons tous Sénégalais. On va manger les tchèpes et on va danser les mbalas. Voilà. Pour célébrer les Cameroun.
Alors donc ce soir à Dakar, à Thiès, à Zingeshore, on ne va pas dormir, la nuit sera très longue. À Kinshasa, par contre, c'est notre deuxième sujet, il y aurait de bruit de bottes. Y a-t-il eu tentative de coup d'État à Kinshasa, Kerwin Maïzo?
Ben, il y a eu quelque chose qu'on peut supposer, ben, qui touche à la sécurité du pays. Après, tout ce qui touche à la sécurité intérieure du pays n'est pas coup d'État. Mais c'est un événement de nature à mettre à mal la sécurité intérieure du régime. Hein? Pas du pays, mais la sécurité intérieure du régime. Parce que la personne qui est concernée dans cette affaire, c'est François Béya, le conseiller spécial du président congolais en matière de sécurité. Et c'est une barbouze de carrière formée en Israël, recrutée par les barbouzes en chef de Mobutu, M. Séti Yalé. Il a eu une longue carrière dans les services de renseignement et les derniers postes occupés sous le mandat de l'ancien président Joseph Kabila, c'était directeur de la DGM, Direction Générale des Migrations, qui est un poste quand même hautement stratégique dans les dispositifs sécurité de la République démocratique du Congo. Il a un petit surnom, Fantomas, c'est les noms fait peur, et on sait qui est là. Alors, le président Félix Tshisekedi était à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine où il a procédé à la passation des pouvoirs entre lui, ancien président en exercice de l'Union africaine, et son remplaçant, le président sénégalais Macky Sall. Et on apprend à Kinshasa que les hommes de la 14e région militaire sont allés interpeller François Béat chez lui et l'ont ramené au bureau de l'ANR pour un interrogatoire, l'ANR qui est dirigé par M. Mbelou. Et les quelques bribes d'informations qu'on a eues à ces propos ont été communiquées par les gens de la CAGE, qui est une organisation de défense des droits de l'homme, qui ont dit l'avoir rencontré en compagnie de son épouse et d'un de ses frères, et que ses droits lors de l'interrogatoire sont respectés. Ben, tout ce qu'on dira après, c'est de constats et de projections intellectuelles. Donc on ira en
donc à l'heure où nous parlons, il n'y a pas grand-chose qui est connu de ce qui se serait passé. Oui. Il n'y a que lui qui aurait été interpellé à ce stade-ci.
Officiellement, lui, mais apparemment, il y a deux autres personnes. Il y a certaines sources qui parlent aussi de deux hauts gradés de l'armée, des deux officiers de l'armée qu'on aurait interpellés. Mais je ne peux pas confirmer parce que, bon, on a essayé de faire des recoupes. Aucune autre source ne parle de ces deux autres personnes. Bon, peut-être que les deux autres personnes ont été écrasées par la personnalité de celui avec qui ils auraient été interpellés. Alors, le constat, c'est quoi? Le constat, c'est ces derniers temps, au sein de la présidence, pléthorique, il y a une guerre de tranchées entre des clans et des groupes d'intérêt, notamment mafieux, hein, tout autour du président. Et il n'est un secret pour personne qu'il y avait un conflit grave entre...
Quand vous dites qu'il y a des groupes mafieux autour du président, c'est quand même assez grave comme affirmation, là.
Ben, c'est une affirmation que j'assume parce que on sait que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il y a des détournements abyssaux dans sa présidence. On a vu des villas pousser et puis on connaît les pédigrés de certains conseillers à la présidence. Ce sont des gens qui, au Canada, en Belgique, en France, lorsque on imprime leur casier judiciaire, vous pouvez terminer une rame de papier. Donc, il y a des gens mais qui se comportent. Je pense même que le mot n'est pas assez fort. Hein. C'est vraiment des gens qui se comportent comme si on était dans une mafia. Et cette lutte de positionnement, cette lutte de tranchées, cette lutte de positionnement, cette guerre de tranchées, ces dissensions internes et ces comportements des mafieux ont fait, par exemple, qu'il y a un conflit qui était d'abord latent, mais qui devient de plus en plus visible, entre deux conseillers à la présidence, M. François Béat et un certain Fortuna Biselele. La guerre était devenue tellement visible que bon, on en entend parler dans beaucoup de milieux généralement bien informés que mais ça tirait à boulet rouge entre les deux. Bon, autour de cette présidence de Félix Tshisekedi, on a remarqué que toutes les personnes, ou on a constaté que toutes les personnes qui sont des témoins congolais du deal qu'il a signé avec Joseph Kabila sont politiquement éliminé, même professionnellement éliminé. Vital Kamerhe, hors circuit. Jean-Marc Kabound, l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'UDPS, mis hors circuit. Et aujourd'hui, François Béat aux arrêts. Vu le poste qu'il occupait, même s'il est innocenté par rapport à ce dont on l'accuse, il serait difficile de tenir le poste stratégique qu'il tenait. Ça, c'est d'abord un constat très important. Alors, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Fortuna Biselele, qui a ses entrées à Kigali, a-t-il usé de son carnet d'adresse, a-t-il usé de son influence pour mettre François Béat out? C'est vraiment une question qui mérite d'être posée. D'autant plus qu'on sait que ces derniers temps, sur instigation de François Béat, on a intercepté une cargaison de minerais qui sortait du Katanga. Cette cargaison impliquait Fortuna Biselele et l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante, la CENI, donc Corneille Nangaa, est-ce que les autres ne se seraient peut-être pas vengés par rapport à cela? On ne sait pas. Est-ce qu'on peut relier les deux événements? Ça, c'est aussi une question qui mérite d'être posée. Bon, après, il y a des médias qui disent que le président ne serait pas content de la façon dont François Béa gérait les autorisations de sortie, hein, de décollage et d'atterrissage de certains jets privés au pays. Dernièrement, le président Joseph Kabila voulait aller en Afrique du Sud. La sortie a été retardée de quelques jours, mais finalement, il y est allé. Il serait, encore faut-il que cela soit avéré, mais en tout cas, des sources assez concordantes, il est à l'extérieur, il serait en Afrique du Sud. Est-ce que c'est lié avec cette autorisation de sortie que François Béa, proche collaborateur de Joseph Kabila, aurait accordé à Joseph Kabila? Est-ce que c'est lié avec cette autorisation? Ça, on ne saurait y répondre. Donc, il y a un problème qui touche la sécurité intérieure du pays, notamment la sécurité au niveau de la présidence, et ce problème impliquerait François Béa, qui est interrogé au niveau de l'ANR. S'il est reconnu coupable...
L'ANR, c'est l'Agence nationale des renseignements.
Oui, l'Agence nationale des renseignements. Ben, s'il est reconnu coupable, comme ils ont des statuts un peu entre guillemets des militaires, ils seront jugés par la Cour d'ordre militaire. Bon, pour le moment, c'est une pré-enquête qui s'effectue et on verra ce que ça va donner.
Donc, à l'heure actuelle, plus de questions que des réponses par rapport à la situation. On ne peut que conjecturer. C'est une situation qu'on va suivre et on va voir ce que ça va donner. On va passer au troisième sujet. Là, par contre, ce sont des coups d'État avérés et qui ont réussi. Celui qui a ouvert le bal, il s'appelle Assimi Goïta. Il est au Mali. Il a pris le pouvoir le 24 mai 2021. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya, en Guinée, met de côté Alpha Omar Konaré. Pardon, Alpha Condé. Pourquoi je parle d'Alpha Omar Konaré, mais de côté Alpha Condé qui avait tripatouillé la constitution pour pouvoir rester au pouvoir. Et il y a quelques jours, c'était le 24 janvier 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba a fait partir son prédécesseur au Burkina Faso. Oui. Que se passe-t-il dans cette partie de l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'on a une telle succession de coups d'État et qui apparemment, lorsqu'on regarde comment les populations réagissent, les masses populaires semblent applaudir, appuyer ceux qui sont en train de prendre le pouvoir par la force en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette région, Ibrahima Sidibé?
Oui, c'est sûr que là, on est en train de voir un phénomène, effectivement, de ces coups d'État qui reviennent sur le devant de la scène politique dans cette Afrique sahélienne ou en tout cas francophone. Et ça pose effectivement plusieurs questions. Alors, la première question, comme tu l'as si bien dit, ce sont des coups d'État faits par des militaires d'une nouvelle génération de militaires. Donc, ce sont souvent des militaires formés, qui ont des niveaux universitaires et quelquefois ce sont des militaires qui ont fait le terrain. Alors, pour parler du cas par exemple de Assimi Goïta, c'était donc des officiers de terrain, donc qui ont vu de très près la mort et qui ont côtoyé vraiment les difficultés opérationnelles de l'armée. Et donc à un certain moment, ils se retrouvent au devant de la scène, donc du coup, ils veulent restaurer l'appareil d'État et par l'armée. Il faut juste rappeler le contexte. Hein. Donc, la plupart des pays sahéliens, notamment le Mali, le Mali s'est effondré en 2012 du fait donc de la mauvaise gouvernance et de la gestion un peu chaotique de la situation dans le nord du Mali par ATT, le pouvoir des Amadou Toumani Touré. Et donc, du coup, on a eu une espèce de poussée islamiste qui, du nord du Mali, s'est gangrénée dans toute la sous-région, donc au Niger, au Burkina Faso, et qui mettait à mal les systèmes militaires avec des attaques de garnisons entières, des tueries incommensurables comme on a vu d'abord au Mali et ensuite dans le nord du Burkina Faso. Donc tout ça, ça a créé une espèce de mécontentement populaire et à un certain moment, donc il va donner pour le cas du Mali à ce mouvement qu'on appelle le M5-RFP et qui donc poussera Ibeka, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, au bout et que l'armée va venir compléter. Donc ça, c'est le premier phénomène. Ensuite, pour le cas de la Guinée, c'est sûr qu'on a un pouvoir aussi évanescent donc d'Alpha Condé qui s'est maintenu en tripatouillant la Constitution sur un fond de... d'instrumentalisation un peu ethnique en utilisant les malinqués par rapport au reste de la Guinée, ce qui a donné ce mécontentement que le coup d'État va venir mettre un coup d'arrêt, le coup d'État donc de Doumbouya qui était aussi un membre de sa garde rapprochée
et qui est de la même ethnie que Alpha Condé. Parce qu'en fait, il dirigeait les forces spéciales, l'élite de l'armée du pays, et Alpha Condé avait choisi d'avoir dans ce corps d'élite-là des membres de son ethnie, et finalement, c'est un membre de son ethnie qui l'a mis à la porte.
Exactement, c'est pour ça que d'ailleurs, et dans son premier discours, c'était de dire justement qu'il veut déverrouiller justement cette espèce de prisme ethnique dans lequel est enfermée la Guinée, en essayant de mettre en place une transition qui va s'ouvrir vraiment et sortir de ce mal guinéen où les trois grands groupes se disputent le pays dans des conditions quelquefois difficiles, les Soussous, les Peuls et puis les Malinkés. Donc et le cas du Burkina est un tout petit peu différent. Donc là, on avait un pouvoir de Kabore qui n'était pas vraiment foncièrement gangréné, sauf que la seule difficulté que Kabore avait, il se méfiait beaucoup de son armée, parce qu'il y avait eu plusieurs fois des tentatives donc, de coup d'État. Et puis l'ancienne garde rapprochée de Compaoré, donc les fameuses RSP, dont est issu d'ailleurs Sandaogo, l'inquiétait, donc il n'a pas mis les moyens pour vraiment donner à l'armée pour faire face aux luttes contre les djihadistes qui ont continué donc à descendre un peu dans le nord du Burkina Faso et dans cette zone dite des trois frontières. Et ce qui fait que malgré l'intervention de la communauté internationale, notamment des forces françaises, les tueries n'ont pas cessé et c'est ce qui mettait les populations hors d'elles et qui faisait donc que de plus en plus le pouvoir à Ouaga était vacillé. Et puis ce coup d'État est venu donner une espèce de coup de grâce d'une situation que tout le monde prévoyait parce que Kabore était déjà très affaibli par les massacres de gendarmes à Inata où il y avait 53 gendarmes qui avaient été massacrés dans des conditions épouvantables, sans armes, sans munitions. Certains étaient obligés de faire la chasse pour manger. Donc c'est ça aussi la difficulté. Donc on a des coups d'État qui arrivent, mais des coups d'État qui veulent restaurer quelque chose.
Tous ces coups d'État arrivent dans un contexte où vous avez un État totalement défait, un État qui n'est plus là, capable de faire, de jouer son rôle, qui est incapable de protéger la nation. Et donc, les militaires se présentent comme ceux qui vont venir remettre les choses dans le bon ordre. Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable, de plausible? Parce qu'en Afrique, on a quand même une longue histoire de coups d'État. Est-ce que ces coups d'État auraient quelque chose de particulier et pourraient vraiment augurer de quelque chose de meilleur?
Ben, c'est sûr qu'il faut attendre un peu pour voir ce que ça va donner. Mais ce qu'on a vu au Mali, en tout cas, on a une volonté réelle de refonder le pays. Donc, pour l'instant, c'est sûr que ces jeunes officiers qui ont fait un coup d'État dans le coup d'État, ils sont en train de ramener un peu la situation sur un terrain géopolitique en disant, mais alors, non seulement on veut une nouvelle gouvernance, on veut une nouvelle approche de la gestion du territoire, mais en même temps, on veut questionner cette hyper-militarisation du Sahel, en posant justement la question donc de la présence de l'armée française et l'amunissement, il y avait quand même plus de 11 000 hommes déployés dans le nord du Mali Et malgré tout ça, on n'a jamais été aussi. L'État malien ne s'est jamais été aussi fragilisé.
Le Mali. Ibrahima, tu m'étends une perche là. Excuse-moi de t'arracher la parole. Parce que là, il faut qu'on en parle. Ça, il va être question de parler de l'attitude de la France. Et je vais raconter ce qui s'est passé il y a deux, trois jours ici. L'ambassadeur de France a été prié de quitter Bamako et ça a provoqué un tollé. Et il y a eu quelque chose de... C'est un moment quand même particulier. Parce qu'en France, on est en période préélectorale. Les élections, c'est dans quelques mois. Et donc, au moment où l'ambassadeur de France est prié de quitter Bamako, il y a une candidate à la présidence française qui écrit un tweet dans lequel elle s'interroge comme suit: mais qu'est-ce que l'ambassadeur de Mali fait encore à Paris? Mais quand elle pose cette question-là, ça fait 2 ans que le Mali n'a plus d'ambassadeur en France.
Oui.
Donc, Valérie Pécresse, candidate à la présidence en France, ne savait pas qu'il n'y avait pas d'ambassadeur malien à Paris. Et donc, ça pose une question importante sur les relations entre les pays africains et leurs anciennes colonies. Là, on était depuis 2 ans dans une situation où le Mali n'avait pas d'ambassadeur en France, mais la France avait quand même un ambassadeur au Mali, et lequel ambassadeur avait la liberté de critiquer le pouvoir en place au Mali. Qu'est-ce que cet événement, je vais poser la question à Kerwin Maïzo, qu'est-ce que cet événement dit à la fois de l'attitude qu'ont les Français par rapport aux anciennes colonies et de l'attitude qu'on observe généralement dans les anciennes colonies par rapport à la France? Je pose la question à Kerwin Maïzo et Ibrahima, tu pourras enchaîner par la suite.
Ben, il faut dire que la colonisation française est un peu particulière. Hein. Lorsqu'on regarde l'Afrique globalement, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, l'Afrique lusophone, bien que j'aime pas trop ce terme, l'Afrique appartient aux Africains. Bon, c'est juste pour des raisons de commodité des langages hein, que j'emploie les termes francophone, lusophone et tout ça, ou l'Afrique arabe. On constate quelque chose. La région la moins développée, là où il y a le plus de turbulences, c'est la partie de l'Afrique où on parle français. Ce sont les dégâts de la politique qu'on appelle la Francafrique, que De Gaulle a mis en place avec son agent Focard. Et il y a eu des réseaux, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, la France s'est toujours montrée condescendante par rapport aux Africains. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être affirmé. Mais ce que l'élite française, surtout parisienne, n'a pas vu venir, c'est qu'en Afrique, il y a une nouvelle génération de personnes qui n'ont pas été en contact direct avec la colonisation et qui sont un peu plus décomplexées que la génération d'avant. C'est valable dans toute l'Afrique francophone, anglophone, lusophone, mais c'est beaucoup plus valable vu les rapports que la France entretient avec ses anciennes colonies. C'est un peu plus criant. Vous allez voir, tous ceux qui ont fait des coups d'État, c'est des jeunes officiers formés, peut-être en France, c'est-à-dire qui ont été ici, qui n'ont aucun complexe. Bon, c'est comme moi et Ibrahima Sidibé, on a fait une partie, bon, pour ma gloire, c'est la Belgique, on a fait une partie de nos études ici, donc on n'a pas de complexe par rapport à ceux qui dirigent ici en France. Il faut que la France tienne compte de cela. Alors, si c'était l'époque de la France de papa, où on pouvait voir un Bokassa pleurer son papa à chaud de larmes, cette époque s'est révolue. On ne va pas les faire à Simi Goïta, on ne va pas les faire à tous ces jeunes officiers qui ont fait l'école de guerre ici ou qui ont fait des universités ici, comme par exemple le président guinéen qui a été dans la même université que moi. Donc, il n'y a vraiment aucun complexe.
Comment vous appréciez l'attitude des pays voisins, notamment de la CEDEAO, par rapport à tous ces coups d'État? La CEDEAO a très vite condamné les coups d'État. Quand on voit la célérité avec laquelle cela a été fait, cette célérité est et a mis lieu de l'attitude qu'a eu la CEDEAO à chaque fois que des présidents ont voulu tripatuer les constitutions, que des présidents se sont octroyés un troisième mandat. Ibrahima, comment est-ce que tu regardes ou tu analyses l'attitude des pays voisins?
C'est sûr que les pays voisins, les institutions sous-régionales africaines en général, ont toujours eu cette espèce de décalage entre les textes et puis la réalité des dynamiques en cours sur le continent. Et c'est ce qui arrive à la CEDEAO. La CEDEAO est prise un peu, c'est un syndicat de chefs d'État. Les syndicats de chefs d'État, souvent, qui ont tous les problématiques que tu viens de dire, souvent, soit ils sont là depuis longtemps, ils ont tripatouillé les constitutions comme Alpha Condé, ou quand on voit la situation de Ouattara en Côte d'Ivoire, ou alors c'est des jeunes, mais qui sont tous, qui font tout sauf de la démocratie. Et il y a des mafis où, quand on voit l'état des droits de l'homme aujourd'hui au Bénin avec ce jeune Patrice Talon qui gère le Bénin comme une entreprise. Donc, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on peut s'interroger. Mais c'est que la décision de la CEDEAO peut être aussi interprétée comme une décision de réflexe simplement parce qu'ils ont peur. De plus en plus, les chefs d'État ont peur que la situation leur arrive. Parce que ce qui s'est passé au Mali, c'est que les gens ont vu, après cette énorme manifestation à Bamako ou dans tout l'intérieur du Mali, ces deux voix, et le Mali avait plus des soutiens dans les pays voisins de la société civile. Donc on est en train de voir comme une espèce de convergence des sociétés civiles africaines qui veulent autre chose, qui veulent d'autres formes de gouvernance, qui ne veulent plus avoir des présidents à vie ou des présidents sclérosés et qui n'ont pas une offre politique adaptée à ce qu'ils veulent. Quoi. Les gens veulent de la sécurité, ils veulent des écoles qui marchent, ils veulent de l'avenir pour leurs enfants. Et c'est ça donc l'enjeu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le cœur de cette France-Afrique vacille parce que la France ne comprend pas ce message-là, malgré tous les efforts. On a vu le discours de Ouaga de Macron, qui voulait reformer cette France-Afrique. Voilà un jeune président, quand il arrivait, on pouvait penser qu'il allait avoir réellement la main, même si moi je restais sceptique, mais son discours était franc et différent, mais on a vu le résultat. Donc c'est toujours l'armée, les Quai d'Orsay, qui définissent cette politique africaine, et cette politique africaine est déconnectée un peu de la réalité des enjeux français, franco-français, ce qui fait qu'il y a cette ignorance, comme tu viens de dire, de Valérie Pécresse, qui ne se rendait pas compte que le Mali n'avait qu'un chargé d'affaires à Paris depuis 2 ans, et que Ibeka cherchait à remplacer l'ambassadeur Djimé Kanté, mais Ibeka n'a pas eu le temps, donc il a été renversé. Et puis la junte avait proposé en fait des noms qui n'ont jamais été acceptés, avalisés par Paris parce qu'ils étaient trop pro-russes, le nom que la junte proposait. Enfin bref, donc on voit bien que quelquefois, c'est ce que j'ai dit, il y a une esquisse, on se cherche, on entend tenter des nouvelles aventures, et le Mali est l'épicentre de ce bouillonnement. Et c'est pour ça qu'il est un peu la cible de ces sanctions de la CEDEAO, et la CEDEAO qui est quelquefois instrumentalisée par Paris et l'Union européenne, d'où ces sanctions et cette volonté d'étouffer ce système qui, pour l'instant, comme je dis, est observé par beaucoup de nations africaines, parce que on a vu les tentatives de coup d'État en Guinée-Bissau aussi, qui a échoué, c'était donc début février. Donc il y a, ça craque, ça commence à bouger. Le Niger peut aussi avoir des inquiétudes. Il y avait eu déjà des tentatives quand le président du Niger prenait ses fonctions. Enfin bref, voilà. Donc il y a des choses à observer. Il y a le peuple africain, les gens commencent à en avoir marre de ce système et tous ces déploiements des moyens sans aucun résultat.
Et moi, j'ai une précision à faire. Lorsqu'on regarde la situation, déjà, bon, la CEDEAO, c'est un syndicat des chefs de l'État. Ils ont eu un réflexe de solidarité et de protection par rapport à leur pouvoir pour que ce qu'ils appellent la gangrène ne puisse pas se propager dans tous les pays de la région. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais souligner à propos du décalage dont vient de parler Ibrahima Sidibé, premier, c'est Lorsqu'il y a des massacres au Mali, au Burkina Faso, ben, le communiqué de la CEDEAO, on doit aller les chercher, mais on doit vraiment aller chercher. Mais la promptitude avec laquelle la CEDEAO est tombée à bras raccourcis sur les dirigeants maliens étonne. La deuxième chose qui dérange dans cette affaire, c'est quoi ? Par rapport à l'attitude de la France. La France, avec la CEDEAO et l'Union européenne, crie des concerts à Rho sur le coup d'État en Afrique de l'Ouest. Mais ce qui s'est passé au Tchad, c'était aussi un coup d'État. Parce que la Constitution impose à ce que, lorsque le président décède, c'est le président de l'Assemblée nationale qui fait l'intérim. C'est une imposition. Mais la façon dont le président de l'Assemblée nationale s'est débiné en se disant non, il n'accepte pas de prendre le pouvoir. Non, la Constitution impose, il n'avait pas de choix, il prend le pouvoir. C'est une imposition de la Constitution. Bon, on va nommer quelqu'un qu'on dit être son fils, et le président Macron s'y rend, mais très rapidement, l'adoube, l'applaudit, traîne dans son affaire Félix Tshisekedi, du président de l'Union africaine, l'amène même jusqu'à Paris, et il se montre très large, très paternaliste vis-à-vis du Tchad, et condamne les autres coups d'État. Deux poids, deux mesures, double standard, ça, ça dérange. La deuxième chose qui dérange, la troisième, pardon, qui dérange beaucoup, c'est le fait que on a dépeint la société russe des mercenaires comme le diable en personne. Mais nous tous, nous savons qu'il y a une société américaine aussi violente et pire que Wagner, c'est Blackwater. Blackwater est en train de faire un sale boulot, et en Irak et en Syrie. Bon, là-bas, ça s'appelle société de sécurité. Tandis que Wagner, un acteur nouveau qui arrive, Wagner devient juste une société de mercenaires. C'est la méthode Poutine, c'est les diables. C'est, on donne l'impression qu'on impose à l'Afrique des partenaires. Ben, la coopération internationale, ce n'est pas un mariage monogamique où on jure fidélité à son partenaire. Hein. C'est, on sort avec qui on veut. Bon, oui, cette façon paternaliste d'imposer aux Africains des partenaires, ça, maintenant, ça dérange. Alors, s'il y a quelque chose que la France n'a pas vu, c'est cette nouvelle génération de jeunes Africains panafricanistes qui fonctionnent en horizontal. Il y a une espèce de solidarité de tous les panafricains avec une partie de la diaspora. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a des gens qui ont beaucoup d'influence, qui, lorsqu'ils font une vidéo, c'est suivi par une bonne partie de la jeunesse africaine, c'est qui a des effets, peut-être néfastes, sur néfastes, hein, ou c'est selon, sur la perception que beaucoup d'Africains ont des relations de l'Afrique francophone avec la France. Les gens ne veulent plus de cette relation paternaliste, les gens veulent de l'eau, du pain, cette affaire de champagne pour quelques-uns au lieu de l'eau pour tous, parce que la France est derrière les adeptes du champagne pour quelques-uns. Tandis que l'eau pour tous, ce n'est pas le problème de la France. Si le Burkina Faso n'a pas été sanctionné, quelque part, on connaît l'influence du groupe Bolloré. Hein, il y a un chemin de fer qui doit continuer à fonctionner. Hein, les ports d'Abidjan, alors si on étouffe le Burkina Faso, c'est un acteur français qui va perdre beaucoup d'argent. Bon, là, on met un peu la pédale douce. Bien que officiellement, ça a été présenté comme en disant, bon, les sanctions au niveau du Mali ont été tellement mal perçues qu'ils ont mis la pédale douce un peu avec le Burkina Faso. Ce n'est pas la véritable raison. L'autre raison, c'est qu'il fallait préserver les intérêts d'un acteur économique majeur qui est français. Hein, les business must go on. Donc, on a mis la pédale un peu douce. Ça aussi, ça dérange. Il faut que l'on change la définition de la démocratie en Afrique. La démocratie, ce n'est pas que les élections, l'alternance, n'importe quelle alternance. La démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'association, c'est la séparation des pouvoirs, c'est des élections crédibles, c'est une certaine indépendance, parce que la démocratie doit se faire dans l'indépendance. La démocratie, c'est aussi l'état des droits. La démocratie, c'est la justice. Et si vous avez la démocratie, vous pourriez aussi faire une bonne économie. Or, tout ça, en Afrique, c'est juste les élections. On tue au nord du Mali, oui, il faut organiser les élections. Mais non, mais on veut faire table rase, réorganiser. Ah non, 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 il faut d'abord les élections. Non, 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 non. Bon, après, Assimi Goïta, on peut lui reprocher des choses. Ah, il a voulu faire une longue transition, ok. Mais la raison qu'il évoque pour faire cette longue transition, on pouvait discuter sur cette raison. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le système est tellement ankylosé que prenons notre temps, mais faisons table rase et réorganisons à fond les choses. Bon, si lui a dit qu'il lui faut 5 ans pour réorganiser à fond les choses, on peut négocier sur la durée en disant, bon, écoutez, au lieu de raisonner en termes d'années, raisonnons en termes de mois. Et en termes de mois, bon, 12 fois 2, 24 plus 6 mois, ça dit 2 ans et demi, ça va faire 30 mois par exemple pour mettre en place ces nouveaux systèmes. Maintenant, c'est les élections. Hein, ce point barre. Vous organisez les élections, peu importe la personne qu'on va proclamer comme vainqueur, ce n'est pas un problème. Que les gens meurent au nord, ce n'est pas un problème. Qu'il n'y ait pas d'école au nord, ce n'est pas un problème. C'est organiser les élections, élections, élections à tout prix. Et à n'importe quel prix, les gens n'en veulent plus. Il faut écouter la population africaine, ce qu'ils appellent vulgairement ici la rue africaine. Ce n'est pas la rue, c'est la population africaine. Que dit la population africaine? Les jours où les dirigeants français et certains de leurs partenaires africains comprendront cette dimension, ça sera le début du progrès et ça sera la sortie, ça sera le bout du tunnel.
Est-ce que au final, pardon Ibrahima, est-ce qu'au final, et je veux vous entendre là-dessus, est-ce qu'il ne se pose pas une vraie question qui est celle de la souveraineté? Nous sommes indépendants en Afrique pour la plupart des pays depuis 1960, mais je parle à des juristes, je parle à un juriste, je parle à un politologue. La souveraineté d'un pays, c'est être capable d'assurer sa défense, être capable de battre monnaie et être capable d'avoir une diplomatie. Quand on regarde la plupart des pays africains, notamment les pays qui ont été colonisés par la France, ils ont une monnaie qui ne bat pas. C'est une monnaie française. Ils ont des accords de défense qui font que leurs armées sont incapables de défendre le territoire national. Et en matière de diplomatie, en fait, c'est des pays qui suivent la voie de la France. Est-ce que des territoires qui sont dans cette configuration-là sont-ils vraiment des territoires souverains? Et que finalement, c'est la question qui se pose, parce que même par rapport à la société Wagner, on a entendu les autorités françaises se plaindre du fait que les Maliens avaient des accords avec Wagner. Il ne s'agit pas pour moi de dire si c'est bien ou si c'est mal, mais à un moment, la question qui se pose, est-ce que les autorités maliennes, en tant qu'autorités d'un État souverain, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de signer des accords avec qui ils veulent, sans que en France, ça ne provoque un tollé, et où les gens parlent comme s'ils avaient des règles ou s'ils devaient diriger le Mali à la place de ceux qui sont là, et en utilisant des termes, et ça j'ai entendu aussi, c'est ce qui a énervé les autorités au Mali, au lieu de parler du président malien, on parlait du chef putschiste, de la junte qui est à Bamako, tous ces termes ont énervé à Mali, et puis on a dit basta à l'ambassadeur de France. Est-ce que finalement la question autour de laquelle on tourne n'est-elle pas simplement celle d'une vraie souveraineté qui n'est pas assumée? Ibrahima Sidibé.
Oui, c'est sûr qu'on a, ça pose, tout ce qu'on voit là dans le Mali, au Mali actuellement, c'est sûr que ça pose la vraie question de l'émancipation. Moi, je reviens toujours à la situation du peuple par le bas. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est pour ça que je dis, les gens veulent autre chose, une autre offre politique. Et ils veulent des dirigeants qui soient capables de répondre à ça. Ça, c'est le premier point. Mais si cette offre va à l'encontre de l'intérêt des Occidentaux, que ce soit la France ou autre, tant pis. Et c'est ça qui se passe. Donc, les Assimi, on capte cette demande-là qui est réelle au front du Mali. Ça fait 10 ans que le Mali traverse une crise multidimensionnelle, une crise où elle avait mis tous ses moyens sur la communauté internationale qui a échoué. Non, je ne parle pas même de Barkhane et tout ça là. Donc, échec total sur tous les points. Et on a aujourd'hui un pays qui est presque évanescent. Le pouvoir malien contrôle que 30% du territoire. Hein? Alors qu'on se rappelle du discours de François Hollande en 2013, il voulait réinstaurer la souveraineté du Mali sur tout son territoire pendant l'opération Serval. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens voient. Comment de l'opération Serval où la France était applaudie. Il y a des femmes, des enfants même qui naissaient, ont donné, les parents donnaient leur nom de Hollande à leurs enfants. Hein? Et puis, ce qui se passe maintenant, où les gens prient la France à prendre la partie. Et d'ailleurs, apparemment, l'opération Barkhane, je sens, va bientôt s'arrêter à la suite de cette expulsion, qui est inédit un peu dans les relations entre les deux pays, et qui est inédit même dans la relation franco-africaine. Parce que quand on sait ce que c'est le pouvoir que peut avoir un ambassadeur de France dans les capitales francophones, c'est presque des quasi-chefs d'État. Ah, et donc, expulser, donner 72 heures à un ambassadeur de France dans un pays où il y a 5000 hommes, il faut le faire, c'est courageux. C'est pour ça que je pense, j'espère que ces militaires au pouvoir Bamako, d'ailleurs, ont bien réfléchi dans leurs affaires et qu'ils ont protégé leurs arrières sur la problématique Wagner et tout ce discours de Paris. C'est vrai que c'était un tout petit peu tiré par les cheveux. Moi, je trouvais ça un peu condescendant et la France est comme une espèce de en lévitation. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est sonnée. Hein, et au lieu de reconnaître simplement que ben, y a quelque chose qui n'a pas marché, il n'a pas su capter la demande des Maliens. Les Maliens voulaient plutôt qu'on leur donne des moyens de renforcer leur armée et d'aller rapidement libérer leur territoire de ces hordes djihadistes. Mais on a vu plutôt des collusions avec certains groupes. On a vu donc.
Les MNLA, par exemple, ils ont des rapports quand même bizarres au nord. La France et les MNLA.
Oui, mais c'est pour ça que je disais donc les collusions avec des groupes. Et récemment encore, c'est parce que l'erreur majeure a été commise justement quand, aux portes de Kidal, l'armée française est allée chercher les Tchadiens et a interdit à l'armée malienne d'aller dans cette zone de Kidal. Et on a sanctuarisé cette zone pour le donner à un groupe qui est pour la partition du Mali et un groupe qui ne représentait même pas les trois règles maliens. Et qui venait de Libye, enfin. Donc, l'aspect géopolitique, aujourd'hui, les gens le comprennent. Et c'est ça qui devient compliqué de plus en plus, donc, pour Paris et sa politique africaine. Nous, on l'avait toujours dit qu'il faut la remettre à plat, il faut totalement, la France doit revoir sa politique africaine si elle veut demain être présente dans cette partie du monde. Mais sinon, c'est sûr que les générations qui arrivent sont décomplexées, veulent du partenariat gagnant-gagnant et disent clairement ce qu'ils veulent et veulent prendre le contrôle réel de leur pays pour le bien de leur population. Et si ce n'est pas ça la démocratie, c'est quoi?
Et oui, voilà, j'ajouterais aussi que chasser l'ambassadeur de France, il fallait avoir le courage de le faire parce que j'ai dit que c'est des gens qui sont quand même des militaires et décomplexés. Hein. Déjà, de par leur formation, ils ont fait des stages en Russie, aux États... Non, des stages en rapport avec les Russes, les Américains. Et ils ont une horizon quand même assez ouverte. Et c'est un événement majeur parce qu'on sait que lorsque la France a défenestré de façon honteuse le président Gbagbo, bon, toute l'Afrique a vu, une bonne partie de l'Afrique était choquée. Et à l'époque, le président ivoirien était locataire dans une maison appartenant à la France. Ça, c'est une honte dans un pays sans être souverain. Le président est locataire dans son propre pays. Nous, on se rappelle encore quand le président Gbagbo disait « Bon, ils n'ont qu'à prendre leur maison et nous à nous laisser notre terre. » Cet événement-là qui consiste à expulser un ambassadeur occidental, les Zaïre de Mobutu l'avaient fait avec l'ambassadeur Hinton. Et à l'époque, c'était un événement. Bon, ce qui vient de se passer en Afrique de l'Ouest, c'est une grande première. Ça va peut-être encourager les gens à entretenir des rapports un peu plus décomplexés avec la France. Et je soulignerai aussi que la France n'est pas là pour les beaux yeux des Africains parce que le discours ici à Paris, c'est « on est venu vous sauver ». Mais les Français oublient que lorsqu'ils étaient envahis par les Allemands, il y a eu des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire tous ces Africains, qui sont allés se battre pour la France. Et que la guerre qu'il y a dans le Sahel, c'est parti aussi en partie à cause de l'assassinat horrible du guide libyen Muammar Kadhafi par la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. Donc les autres ont subi les effets collatéraux d'une guerre que les autres ont menée et laquelle guerre a déstabilisé tous ces pays. Et regardez la partie où se trouve actuellement l'armée française depuis le Niger jusqu'au Mali, c'est la ceinture de l'uranium. Hein. Donc, derrière les militaires, il y a toujours des ingénieurs, des géologues qui vérifient, qui font des recherches, qui font de la prospection. Alors, on va nous dire que, bon, on aurait vu des Russes spécialistes, des géologues spécialistes de l'or à Bamako. Mais les Russes spécialistes de l'or ont le droit de se promener où ils veulent lorsqu'ils ont leur visa et les autorisations nécessaires. Quant à ces...
Oui, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment cette histoire de guéguerre sur Wagner ou pas Wagner, on a des preuves qui sont là, c'est vraiment minable et pitoyable, et ça montre justement un système diplomatique et politique français qui n'est plus en phase, qui ne comprend plus ce qui lui arrive, et c'est pour ça que je disais donc les vieux réflexes néocoloniaux ont la vie dure, on a l'impression que la France n'arrive plus à comprendre que la situation a changé et qu'on ne peut plus, même si on a 5000 hommes sur le terrain, changer le cours de l'histoire dans ces pays. Parce que simplement, maintenant, il y a une opinion publique, il y a des gens qui commencent effectivement à regarder, les informations circulent, il y a une espèce de... On a une société civile transnationale, on a vu tous les soutiens que le Mali a eu au Sénégal, en Guinée, même au Burkina Faso, c'est incroyable. Et moi, je pense, c'est pour ça que je dis, je préfère qu'on ramène souvent les enjeux africains aux masses, quoi. Et donc, les pouvoirs qui vont se légitimer dans le peuple vont avoir toute la légitimité, la confiance pour continuer à travailler. Mais de plus en plus, les gens vont demander des comptes. Et d'ailleurs, même les militaires maliens, les Assimi et ses amis, là, le peuple les regarde. Ils les ont mis en garde. Alors, ils veulent vraiment qu'on refonde le pays et son mode de gouvernance chaotique qui est incarné par Ibeka. Alors, maintenant, même si la Russie n'est pas la solution, mais c'est sûr que la Russie peut leur apporter cette gage de sécurité pour pouvoir faire ce travail, et ensuite remettre un pays organisé à un pouvoir qui va venir continuer le travail. Mais c'est sûr que le Mali, de par sa position géographique, veut justement constituer un peu le cœur de ce nouveau dynamisme africain décomplexé par rapport à la France, parce que le discours n'est pas vraiment de couper les ponts avec la France, mais c'est de montrer simplement à la France que si elle veut demain des investissements, des marchés, il n'y a aucun problème, mais il faut qu'elle soit claire dans ce qu'elle fait, et il faut qu'elle soit claire avec les peuples africains. On ne peut plus continuer à venir avec une armée, on tire les uns, on utilise les uns contre les autres, on n'a pas de résultats et on veut influer sur le cours et la manière de gérer de ces pays. Et puis, on a vu aussi aux Nations Unies, c'est sûr que ce discours de Beni Wibi où les pays africains automatiquement apportaient leur vote du temps des Oufouettes et des Senghor, c'est fini. Alors, le discours que Choguel Maïga a tenu aux Nations Unies, c'est ça qui a choqué, parce qu'il a dit ouvertement, simplement, que la France est en train d'abandonner et que le Mali a le droit de trouver d'autres partenaires, puisque la France a décidé de partir d'elle-même de ces zones qui sont des zones difficiles à gérer, 800 000 km² en plein désert. C'est sûr que le Mali, l'armée malienne, dans sa capacité opérationnelle, n'a pas les moyens pour l'instant.
Un message pour la jeunesse africaine, hein, parce que c'est une tendance que j'ai remarquée et je m'en voudrais, mais vraiment, de ne pas le dire dans cette émission, c'est que on souffre d'une espèce de syndrome de la corde au cou. C'est-à-dire que, bon, si ce n'est pas la France, c'est les Américains, si ce n'est pas les Américains, c'est les Russes. Dans les propos de l'opinion publique, surtout de la jeunesse africaine, il faut que les gens comprennent que les Africains choisissent qui ils veulent comme partenaire, mais ils ne sont pas obligés, lorsqu'on abandonne une corde qu'on avait au cou, d'aller d'aller prendre une autre corde. Nous sommes libres, en fait. Nous sommes libres. Ce qui compte, les relations internationales, c'est rapport de force et intérêt. Il n'y a pas d'amitié, c'est que les intérêts. Et si nous sommes avec un nouveau partenaire en Afrique, c'est gagnant-gagnant par rapport à nos intérêts. C'est pas une histoire de bon, on en a assez de Français, maintenant on a besoin des Russes et on brandit les drapeaux russes. Non, mais si demain les Russes refaisaient la même chose, parce que l'impression que j'ai, hein, dans certains discours, c'est juste qu'on tend le coup, ben oui, bon, j'en ai assez de la corde française, mettez-moi une nouvelle corde. On doit faire un peu plus attention à ça. Je donnais assez de la corde française. Maintenant, je suis libre. Négocions, gagnant, gagnant. Mais je ne veux pas d'une nouvelle corde. Ça, c'est on doit vraiment y faire attention.
C'est intéressant d'apporter cet aspect-là. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous suivez le collimateur de l'actualité avec Kerwin Maïzo et Ibrahima Sidibé Pommier. Je suis Magloire Mpembe au micro. Il nous reste très peu de temps. On est quasiment à la fin. Je vais citer le professeur Ebenezer Obadare qui travaille pour le CFA, le Council of Foreign Relations, un think tank américain assez connu et assez puissant. Il a écrit dans un article à la suite du coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso. Il a écrit ce qui suit. Ce qui semble être l'affection pour les militaires est en fait un désir de stabilité et de bonne gouvernance. Et en une minute, je veux vous poser la question. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez que ces coups d'État militaires, dans les mois qui viennent, seront gages de stabilité et de bonne gouvernance? Vous avez une minute pour résumer votre réponse à ce propos.
Kerwin, je commencerai comme ça, on laissera les mots de la fin aux politologues. Voilà. Moi, je dis, ce que nous vivons là, c'est des douleurs de l'accouchement d'un ordre nouveau. Et les douleurs de l'accouchement, c'est toujours perturbant. On n'y voit pas clair, mais je sais que de ces chaos sortira un ordre nouveau. Mais nous ne devons pas aussi perdre de vue un aspect très important. On ne dirige pas un pays en surfant sur les sentiments des rejets, par exemple, de la France. Mmh. On dirige un pays avec un véritable projet, avec une vision. Les autorités maliennes, par exemple, pour ne citer que ceux-là, ne doivent pas se contenter de cette vague des rejets de la France pour poser une certaine légitimité. À côté, on doit aussi mettre en place la sécurité prioritaire, certes, mais on doit aussi mettre en place un programme économique minimum. Quelqu'un qui crie le matin à bas la France doit trouver son bol de riz au moins garni le soir, parce qu'il ne va pas continuer à crier à bas la France et rentrer le soir ventre affamé. Parce que lorsqu'il rentre le soir ventre affamé, après à bas la France, il va crier à bas Goïta. Donc, ils doivent faire très attention par rapport à ça.
Ibrahima Sidibé Pommier.
Oui, c'est sûr que là, ce que tu dis là, je souscris totalement. On est sur l'instrumentalisation. Le problème, c'est pour ça que je dis des fois, il faut partir des dynamiques propres de nos sociétés. Ce qu'on est en train de voir au Mali pour l'instant, c'est sûr qu'on a une connexion entre le pouvoir donc militaire et ce que veulent réellement la population, les aspirations du peuple, qui est d'ailleurs portée par le M5-RFP, ce mouvement. C'est dans le deuxième coup d'État, quand ils sont allés chercher Chokel Maïga, qui est un vrai stratège, qui a une vision, que les choses sont en train de partir dans ce sens-là. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est sûr que ça va dans la bonne direction, il y a une cohérence dans leur vision, mais c'est pour ça que je dis, donc je trouve qu'il faut encore un peu de temps pour observer réellement comment les militaires vont se départir de la crise liée aux embargos. Est-ce qu'ils peuvent se prendre une bonne partie de la communauté internationale? Comment ils vont créer une dynamique interne, donner à manger à la population? On rappelle quand même que le Mali est un pays enclavé. Donc, c'est ça qui va se jouer. Puis, comment créer un système transnational panafricain que j'appelle de tous les vœux, parce que c'est la seule alternative qui peut nous aider à déverrouiller justement cette emprise des puissances comme la France et son système de France-Africain qui est de plus en plus contesté.
Ibrahima Sidibé Pommier, merci d'avoir accepté de participer à ce numéro 2 du collimateur de l'actualité. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à nos auditeurs, à nos web téléspectateurs. Merci à Kerwin Maïzo pour sa disponibilité. Merci à Vianney Missoumbi qui fait la régie et qui règle la préparation technique de cette émission. Je suis Magloire Mpembe. Je vous fixe rendez-vous pour un prochain numéro. même heure ou même antenne, comme on dirait dans les médias classiques. Ici, on va plutôt dire un autre rendez-vous sur votre lecteur podcast préféré, sur www.sudglobalradio.net, mais aussi sur la chaîne Kerwin Maïzo, une chaîne YouTube que vous connaissez bien. Merci à tous et à la fois prochaine.